Coronavirus. Connard de virus.
Elle débarquait un jour de Chine. Retourne-y quand il confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI. Je cogne sans cesse Arlette Chabot, ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être plantée chez moi. Je veux voir le monde, comment il va.
Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast universitaire consacré au vocabulaire du français contemporain, comme les néologismes, les anglicismes, la féminisation, le lexique, etc. Aujourd'hui, vous écoutez la belle voix de moi, Catherine Erhardt, étudiante à l'université d'Augsbourg en français et en espagnol. Un jour, je vais être professeur, mais pour l'instant, je suis une journaliste qui vous présente les mots importants de notre société et surtout les néologismes. Ce podcast est un projet dans le cadre du séminaire « Avancer le mot du français contemporain » dirigé par la professeure Daniela Pitrini. J'ai mené une recherche sur un thème que je ne vais pas vous révéler maintenant parce que d'abord, j'ai une question pour vous. Alors, à quoi pensez-vous si vous entendez le mot masque? À un masque de carnaval à Venise? Ou bien avez-vous des souvenirs de l'année 2020? Si vous avez pensé à un masque de protection contre le Covid, cet épisode est fait pour vous. Je suis sûre que la pandémie a influencé votre vie quotidienne et votre vie a changé pendant cette période. Mais votre vie scolaire, universitaire ou professionnelle n'était pas le seul aspect qui s'est renouvelé à ce moment-là. C'était surtout notre langue et le lexique qui ont évolué aussi. C'est normal parce que le lexique est en constante transformation, tout comme notre vie. Et il faut que le lexique s'adapte à chaque situation actuelle. Ainsi, pendant la période du Covid, il fallait un lexique médical précis et complet. Comme il y avait beaucoup de progrès techniques, on avait besoin d'un vocabulaire adéquat pour que tout le monde puisse comprendre de quoi parlaient les techniciens. Comme vous le savez, la chose la plus importante était de se protéger et la population se protéger avec un vocabulaire commun. Notre société a dû travailler ensemble pour surmonter le Covid et c'est pourquoi on a utilisé un français singulièrement médicalisé et une langue largement partagé. Alors, mon première question est, qu'est-ce que c'est un néologisme et le mot Covid? Cela mène à ma question de recherche. Comment la pandémie du Covid-19 a-t-elle influencé le lexique du français contemporain et qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui, 5 années après la pandémie? Mais pour commencer, il est important de vous réexpliquer ce qu'est un néologisme. La néologie est le process de faire de nouveaux mots et pour le résultat, on dit néologisme. Alors, avez-vous remarqué que le mot Covid est lui-même un néologisme? Voici la définition officielle du Petit Robert. Médecin, maladie infectieuse et contagieuse causée par un coronavirus. Patient attendu de la Covid. Covid-19 à l'origine de la pandémie qui débuta en 2019. Covid long ou longue dont les symptômes persistent. Selon moi, il est intéressant que ce mot puisse être utilisé au masculin ou au féminin. Peut-être c'est à cause de l'origine du mot Covid. Le nom a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé qui est toujours responsable de la dénomination de maladie. Savez-vous qu'il existe des règles précises pour nommer une maladie? Premièrement, il faut éviter de stigmatiser des régions ou des populations. Par exemple, pour le Covid, on n'avait pas le droit de dire virus chinois ou virus de Wuhan. Deuxièmement, le nom d'une maladie ne doit pas faire référence à A, une zone géographique, B, le nom de peuple, C, les animaux, D, aliments et industries. Le mot Covid ne renvoie à aucun de ces domaines, donc l'Organisation mondiale a bien choisi ce terme. Et vous, Auriez-vous une meilleure idée pour nommer cette maladie? Cela mène à ma question de recherche. Comment la pandémie du COVID-19 a-t-elle influencé le lexique du français contemporain et qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui, 5 années après la pandémie? Les catégories principales du néologisme lié au COVID. La santé et la prévention. Mais peut-être vous n'avez pas le temps de le faire parce que votre vie quotidienne est stressante. Je vous comprends. Pourtant, n'était-ce pas la même chose pendant la période du COVID? J'ai l'impression que le COVID a influencé plusieurs domaines de votre vie et moi, je veux le catégoriser un peu pour vous. La première catégorie est celle de la santé et de la prévention. Ici, il s'agit des mesures médicales et sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie. Le lexique de ce domaine décrit les symptômes et les traitements de la maladie, mais aussi les moyens de protection comme la distanciation. En gros, ce thème a la dimension la plus concrète et la plus visible du COVID dans notre quotidien parce qu'il touche directement à notre sécurité. La protection contre le COVID s'est faite surtout grâce aux chaises barrières, le premier mot de cette catégorie, dont vous allez maintenant écouter une définition précise. Ce terme désigne des gestes que chaque individu est invité à adapter pour réduire les risques de contamination pour soi et son entourage. L'expression est un groupe nominal composé de deux mots, geste, nom, et barrière, adjectif substantivé au pluriel. Normalement, le mot barrière désigne une clôture faite de poids ou de métal fixe ou mobile qui sert à enclore ou à fermer un passage. Ici, il est utilisé de manière métaphorique pour une limite symbolique destinée à arrêter la circulation du virus. Ainsi, ce mot illustre un cas de lexicalisation métaphorique fréquent dans le vocabulaire de la santé publique. L'expression a été largement diffusée par les autorités sanitaires françaises de 2020, par exemple par le ministère de Solidarité de la Santé. Le ministère de Solidarité de la Santé rappelle que pour freiner la diffusion du virus, la mesure la plus simple et la plus efficace est d'appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le territoire tout le geste barrière. C'est donc un néologisme discursif car il est né dans un contexte de communication de crise a été popularisé par le média. Il regroupe plusieurs pratiques comme par exemple le lavage de mains ou la distanciation sociale. Cela mène à mon deuxième mot de cette catégorie. La distanciation sociale signifiait que nous devions être physiquement éloignés mais socialement unis. Comme je l'ai déjà dit, c'était aussi un geste barrière destiné à diminuer le risque de contagion. Il s'agit d'un groupe nominal composé du nom « distanciation » issu du verbe « distancier » dérivé de « distance » et de l'adjectif « social ». Les deux mots forment une association un peu paradoxale car « social » suppose proximité et lien alors que « distanciation » implique « séparation ». L'expression a été reprise des discours anglophones « social distancing » et elle est apparue dans les communications officielles françaises de mars 2020, d'abord avec le terme « distanciation physique » comme dans la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe le 28 avril 2020 à l'Assemblée nationale. Ce geste barrière, tout le monde le connaît. Désormais, c'est notamment la distanciation physique et le lavage régulier de mains. Êtes-vous étonné maintenant que le français ait utilisé un anglicisme? Je reviendrai encore une fois sur ces thèmes un peu plus tard. Le dossier et les sociétés. Avec les gestes barrières, la distanciation sociale, nous avons été forcés de rester à la maison. Alors, nous avons été créatifs pour continuer à rencontrer les autres. Comme il n'était pas possible de se voir physiquement, on s'est retrouvé sur Zoom et sur Zoom, nous avons tout fait, même l'apéro, qui est très connu en France. C'est donc mon premier mot de cette catégorie, le Zoom-apéro. On l'appelle aussi Corona-apéro ou Skype-apéro et le terme désigne un apéro réalisé en visioconférence. C'est un mot valise, c'est-à-dire un mot formé par la fusion de deux mots existants. Ici, il combine le mot Zoom, qui est à l'origine un nom propre de la plateforme de visioconférence, et le mot apéro, qui est une abréviation familière d'apéritif très fréquente dans le français oral et désignant le poisson à base de vin ou d'alcool que l'on prend avant le repas. Le terme est apparu dès le premier confinement, comme par exemple dans un article de CN News publié le 31 décembre 2020. Apéro Zoom, Corona Apéro, Apéro Skype, autant de termes pour désigner l'idée de se retrouver entre amis par écran interposé. Ainsi, c'est un exemple typique des néologismes discursifs et sociaux, créés spontanément par le locuteur pour décrire une nouvelle réalité. Moi, j'ai aussi fait des apéros Zoom avec mes amis plusieurs fois. Bien que c'était trop, je suis heureuse de ne pas avoir dû fêter mon anniversaire sur Zoom. Mais saviez-vous qu'il existe aussi un terme pour désigner les anniversaires célébrés pendant le confinement? Corona anniversaire. C'est aussi un mot valise entre les deux mots Corona, qui est une abréviation de coronavirus et qui désigne le virus, et anniversaire, qui désigne le jour qui ramène le souvenir d'un événement arrive à pareil jour une ou plusieurs années auparavant. Le terme est apparu dans des grands journaux comme par exemple Le Monde pendant le premier confinement. Confinement oblige le plan se transformer en corona anniversaire. Des amis d'enfance ont proposé l'ouverture d'un bar virtuel. Il s'agit donc d'un néologisme discursif et social. Pendant la période du Covid, plusieurs néologismes ont été créés en combinant le mot corona avec un autre mot. Le travail et la vie quotidienne. Mais la pandémie n'a pas influencé seulement nos dossiers, elle a également influencé notre travail et notre vie quotidienne. Moi, j'étais encore à l'école et au début du confinement, mes cours se déroulaient en distanciel, le premier terme de cette catégorie. Distanciel est un adjectif dérivé du nom distance. Le suffixe « iel » transforme un nom en adjectif indiquant une relation ou une caractéristique. Distanciel, distance. Le mot était déjà attesté dans des contextes techniques ou scientifiques, mais il a connu une forte popularisation pendant la pandémie pour désigner l'enseignement ou le travail à distance. Par exemple, dans les communications scolaires au début du confinement de mars 2020, comme sur le site officiel du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le président de la République a annoncé mercredi 31 mars des mesures pour les écoles, collèges et lycées, enseignement à distance et adaptation du calendrier scolaire. C'est un exemple de néologisme fonctionnel et répond à un besoin lexical précis lié à un contexte inédit. Pendant que j'avais l'école en distanciel, mes parents travaillaient également en distanciel. Pour cela, il existe un autre néologisme fonctionnel, bien sûr, le télétravail. Télétravail est un nom composé formé du préfixe télé, au long, à distance, et le nom travail qui désigne l'activité productive d'une personne. Le mot existait déjà avant 2020, mais il était peu utilisé car nous n'avions pas besoin du télétravail. Pendant le confinement, de nombreuses entreprises et administrations ont adopté le travail à distance. Le terme a donc été employé dans la presse, dans les communications officielles et dans les discours gouvernementaux, par exemple dans le bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse du 26 novembre 2020. Poursuite des missions de services administratifs par déploiement du télétravail. Le changement de son ou d'emploi. Le Covid a été une période complètement nouvelle dans notre vie. C'est pourquoi de nouveaux mots sont apparus. Pourtant, il y avait aussi des mots qui ont changé de son et qui se sont adaptés à la langue courante. Ce phénomène s'appelle le changement de son ou d'emploi, ce qui est un phénomène naturel dans la vie d'une langue. En période de crise, il reflète la fluidité d'un idiome qui s'adapte avec vigueur. Le premier terme de cette catégorie que je veux vous présenter est aéroporté. Avant le Covid, ce mot signifiait transporté par voie aérienne. Mais avec la pandémie, son sens a changé. Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler ce qu'est une pandémie. Une épidémie qui existe dans une zone géographique très étendue. Or, celle du COVID-19 se transmet par voie aérienne. C'est dans ce contexte qu'est apparu le nouveau sens du mot aéroporté. La formation morphologique du terme est composée du préfixe aéro, air, et du participe passé porté, du verbe porter. Il s'agit donc d'un adjectif composé. Le sens du terme a été largement utilisé dans des articles scientifiques en 2020. Par exemple, il préconise l'utilisation de mesures préventives pour atténuer cette voie de transmission aéroportée. Maintenant, vous connaissez un peu l'histoire de la transmission de maladies. Mais savez-vous aussi comment on a appelé la capacité d'accueil maximale d'un lieu fermé ou autorisé pour un rassemblement? On utilisait le mot « jauge ». Auparavant, ce terme désignait un instrument qui mesure un liquide. Avec le COVID-19, son sens a changé, même si l'idée de mesure reste présente d'une certaine manière. Le terme a été largement utilisé dans la presse à propos du déconfinement, par exemple. Le gouvernement a annoncé mercredi 22 septembre 2020 la levée de jauge pour les salles de concert debout. Jauge est un exemple de dérivation du verbe parce qu'il est dérivé du verbe jauger. Les anglicismes. Comme je l'ai déjà dit, je vais maintenant reparler des anglicismes. Et comme je l'ai également mentionné, le COVID-19 a touché le monde entier. C'est la raison pour laquelle de nombreux termes scientifiques venaient d'anglais. Le français en a donc emprunté plusieurs. Êtes-vous étonné qu'une langue qui se méfie habituellement de l'anglais ait adopté des anglicismes? Moi aussi, au début, je l'étais. Mais je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Le premier est le mot « tracking », qui désigne la technique de suivi des interactions sociales par le biais d'une application, notamment pour identifier les personnes entrées en contact avec un patient contaminé. Le terme a été utilisé dans des journaux qui ont évoqué l'amélioration de la santé publique, par exemple. Le déploiement en Europe du tracking utilise dans de nombreux pays. Cependant, ce terme reste critiqué. Le dictionnaire de Petit Larousse lui préfère le mot « traçage ». Ce dernier est formé par dérivation à partir du verbe « tracer », suivre le parcours de quelqu'un et du suffixe « âge ». Un autre terme qui vient de l'anglais est le mot « cluster ». À l'origine, ce mot signifiait « crabe » et signifiait « assemblage serré ». Mais pendant la pandémie, son sens a changé et on a utilisé le mot « cluster », foyer épidémique. Pourtant, c'est encore un anglicisme, c'est pourquoi le terme reste critiqué et le français lui préfère le mot « crabe ». Cependant, le terme a été largement utilisé dans les journaux, par exemple lors d'un grand rassemblement pendant la pandémie, face à ce possible cluster géant. L'humour. Cet article montre aussi la gravité de la pandémie, car c'était une période difficile pour tout le monde. Mais l'humour nous a beaucoup aidés. L'être humain cherche toujours des échappatoires dans les situations graves et l'une d'elles est l'humour, qui crée une distance par rapport à la réalité. Comme l'a dit Viktor Frankl, l'humour est une âme de l'âme dans la lutte pour la préservation de soi. On peut donc dire que pendant la pandémie, l'humour a été plus fort que la tristesse. Pour le diffuser, on a surtout utilisé les réseaux sociaux. Une forme d'humour pendant la pandémie était constituée par la déformation sémantico-discursive. Un exemple est l'ancien premier ministre Jean Castex. Son mot ressemble au mot « casse-tête » qui signifiait « problème difficile à résoudre ». On a donc transformé son nom en « Jean casse-tête » en lien avec les règles du confinement pour créer cette phrase humoristique. Jean Castex a dit « pas de plus de 6 à table ». Ok, mais on a le droit de combien de tables? La phrase représente une construction syntaxique intéressante. La première partie, Jean Castex a dit « pas plus de 6 à table », reproduit la structure d'un discours rapporté au style direct libre comme si le premier ministre s'exprimait directement. La deuxième partie, ok, mais on a le droit de copier le tableau. Détourne le sens normatif de la phrase pour en propulser une lecture absurde. On sait qu'il s'agit de 6 personnes par table, mais la règle ne précise pas combien de tables sont autorisées. J'espère que ce podcast n'est pas une casse-tête pour vous et que vous arrivez à bien suivre mes explications. La phrase suivante est un exemple d'humour multisource où l'on rapproche différentes similarités, par exemple des ressemblances phoniques. La phrase que je vous présente est « Tu peux me trôner le sel ». La phrase est construite sur le verbe « trôner » dérivé du nom « trom », petit avion, sans équipage, embarqué, télécommandé ou programmé, et du suffixe verbal « er » qui permet de créer un verbe à partir d'un nom. Ce mot présente une ressemblance phonique avec le verbe « donner », mettre quelque chose en la possession de quelqu'un. Ainsi, « trôner le sel » évoque à la fois l'action banale de donner le sel à table et l'idée absurde d'envoyer un trom pour accomplir cette tâche. Cette phrase constitue donc une allusion à la distanciation sociale. Ce qui reste encore, la pandémie est aujourd'hui, il y a maintenant une différence de 6 années. Nous ne sommes plus obligés à faire une distanciation ni de respecter le geste barrière. Pourtant, certains termes restent un souvenir pour nous, mais les utilisent-on encore? L'actualité d'un terme dépend de la nécessité de son usage. Comme il n'y a plus de confinement, il n'est plus nécessaire d'avoir de mots comme « sous-apéro », « corona-anniversaire » ou « trekking ». De plus, on ne parle plus de phénomènes liés à l'établissement de la pandémie dans notre monde, comme « jauge » et « aéroporté ». Le mot « aéroporté » est désormais surtout utilisé dans son sens technique ou médical traditionnel. Dans cet article, on parle de soldats et parachutes dans la Seconde Guerre mondiale, par exemple. On apprend comment et quand ont été créées les troupes aéroportées, sur quel type et dans quel théâtre d'opération elles ont été engagées. En outre, l'humour se développe très rapidement, surtout sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle les mots issus de ce plaque ne sont plus utilisés. Surtout avec un nouveau Premier ministre, Jean Castex n'a plus d'actualité. Cependant, un mot reste encore très utilisé. Télétravail, qu'elle est toujours pratiquée aujourd'hui et reste pour certains travailleurs plus pratique après le Covid. Un accord majoritaire sur le télétravail. Conclusion. Le lexique pendant le COVID-19 a beaucoup évolué et de nombreux néologismes sont apparus, surtout pour simplifier les conversations. Le mot COVID lui-même était le premier néologisme, puis d'autres ont suivi dans différents domaines comme la santé et la prévention, le loisir, les sociétés ainsi que le travail et la vie quotidienne. On constate donc que la pandémie a influencé tous les aspects de la langue. Aujourd'hui, seuls quelques termes liés au travail et à la vie quotidienne restent encore vraiment d'actualité. Le mot masque n'était pas le seul à avoir changé de sens et peut-être que d'autres termes évolueront encore dans le futur. Au final, je suis heureuse que nous n'ayons pas perdu l'humour pendant cette période. Même si nous n'utilisons plus les plaques liées au Covid, elles restent de bons souvenirs. Pour répondre à ma question de départ, comment la pandémie du Covid-19 a-t-elle influencé le lexique du français contemporain et qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui, 5 années après la pandémie? Le lexique de la pandémie a profondément marqué le français dans tous les domaines et de plusieurs manières, par des anglicismes, des créations lexicales, mais aussi par des changements de son. Aujourd'hui, le Covid n'est plus au centre de nos vies et la plupart de ce mot ne sont plus vraiment employés. Pourtant, je suis sûre que vous avez aimé ce petit voyage au passé. Nous arriverons à la fin de cet épisode de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il a permis de mettre en lumière la richesse, la complexité et l'intérêt scientifique du vocabulaire du français contemporain, véritable reflet des évolutions linguistiques, culturelles et sociales.
Des potes, des espoirs, même pas un petit restaurant, fermé pour cause de confinement, faire la queue avec ses blaireaux, pour un pauvre, caissières, l'Intermarché, on aura le bol.